plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, K comme Kramer, Robert Kramer, l'épreuve du monde, avec Richard Coppens, Patrice Robin et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Pour moi, disait Robert Kramer, chaque film était en soi la création d'une communauté. Une communauté capable d'inventer l'histoire qu'elle vit, une communauté de gestes, le partage du cadre, d'un espace, du temps. À l'heure où partout dans le monde s'inventent collectivement de nouvelles formes d'action politique et d'être au monde qui peinent à trouver leur traduction cinématographique, si ce n'est dans la très hollywoodienne superproduction nihiliste et un rien roublard de Kate Joker, il est urgent de redécouvrir le cinéma, toujours sur le qui-vive, de ce cinéaste du mouvement, du trajet et du doute, figure majeure de la contre-culture et de la contestation des années 60 et 70, qui est passé de l'ambition de changer le monde à celle de le comprendre et à quitter son Amérique pour devenir, du Vietnam au Portugal, de l'Angola à l'Ukraine et principalement en France, un citoyen du monde. J'ignorais qui verrait mes films, ma stratégie était finalement celle d'une bouteille à la mer, disait encore Robert Kramer, et pourtant, 20 ans après son décès brutal, à l'âge de 60 ans, et alors que les dites bouteilles à la mer accostent sur les rivages de la Cinémathèque française à partir de mercredi prochain, c'est bien encore du monde d'aujourd'hui, comme il va ou ne va pas, que nous parle ce cinéma qui n'a jamais fait de distinction entre fiction et documentaire, sinon pour la remettre en question. Exil et appartenance, mondialisation, place de l'individu dans l'aventure collective, cette œuvre toujours à inventer, ça va faire du cinéma avec les plus petits moments de vie. Pour évoquer avec nous aujourd'hui dans Plan Large cet unique et long film, une histoire en continuel devenir, comme l'a décrivé Robert Kramer, son chef opérateur, producteur et surtout ami de 20 ans, Richard Coppens, et l'écrivain Patrice Robin, qui, d'une rencontre tardive avec le cinéaste alors qu'il préparait avec lui la première grande rétrospective de son œuvre, a tiré un très beau récit intime de sa propre vie avec Kramer en compagnon de route fantôme, Mon histoire avec Robert. À leur côté, la milestone de Plan Large, Charlotte Garçon, qui en fin d'émission ira de l'autre côté du rideau de fer voir ce que les documentaires est-allemands présentés dans le mois du documentaire racontent de ce pays aujourd'hui disparu qu'était la RDA, oui, souvenez-vous. Mais pour l'heure, retour à l'Amérique, aux années d'action et de doute.
Fragments, ideas. You, all of us, we're the future. Nobody lays out the future for you. We make it together. That's the future.
There aren't any molds or models or maps. Freedom was never real before. Seize freedom.
Power to the imagination. Power to our desires for how men could live. That's reality. Power of freedom and imagination to each man and woman and child. All power to the people.
You who want to die, you should die. Find a good way to die. Do it well. Don't take brothers with you in your despair. Take some enemy if you can and get out of the way. Don't carry along the old disease.
All power to the people. All power to each person and the freedom that will one day be ours.
Through struggle, through the process of struggle, we evolve. Forms evolve. Our struggle evolves only through struggle. Revolution is permanent. Permanent revolution.
Votre radio fonctionne parfaitement. Les blancs sont dans le film. C'est Ice, troisième long métrage en 1969 d'un jeune militant de ce qu'on appelait alors en Amérique le mouvement avec un M majuscule, un troublemaker pour reprendre le titre de son premier film qui luttait contre la guerre du Vietnam, les discriminations raciales, la violence policière, qui soutenait les luttes des femmes et les guérillas sud-américaines et puis en même temps inventer une nouvelle façon de vivre en communauté. Alors on aurait pu attendre de quelqu'un qui était le cofondateur du fameux collectif Newsreel, qui produisait, qui diffusait des films de contre-information. On aurait pu attendre de lui un film plein de certitudes, à l'image de ce que fabriquaient en France au même moment les divers collectifs de films militants, comme celui que vous aviez cofondé, Richard Coppens, Ciné-Lutte, vous nous en aviez parlé, c'était dans Plan Large, fin mai 2018. Or, ce qui frappe tout de suite, et c'est déjà le cas dès son premier film en 1966, In the Country, c'est le doute, c'est le questionnement sans fin, c'est l'autocritique des actions politiques, à tel point d'ailleurs que Newsreel va refuser de diffuser ce film Ice, Richard Coppens.
Oui, mais il faut dire qu'on avait une vision, je parle d'une époque où on pensait que Newsreel était nos camarades d'Amérique du Nord, on avait une vision d'un collectif comme nous, on se l'imposait, c'est-à-dire pas de parole subjective, pas d'auteur, pas de hiérarchie, partage des tâches, le mot réalisateur n'existe pas. Alors que Robert s'impose déjà dans Newsreel comme un réalisateur. Ce sont ses films. Ce sont des films qu'il réalise et produit avec un collectif de gens dont il fait partie, dont il participe aussi aux ambitions politiques de ce groupe qui est très fortement politique, qui est impliqué dans les luttes politiques, qui ne fait pas que du cinéma. Mais il s'impose aussi tout de suite comme l'auteur, réalisateur de ses films, avec des questionnements sur la manière de filmer, sur l'usage de la parole, sur la construction des personnages, sur le rapport entre l'image, la musique et le son. Et donc, il est d'emblée un auteur à part entière, comme on le dirait, de la politique des auteurs définie par les cahiers du cinéma. Tout de suite. Je parle pour moi, pour nous, pour une génération d'après. Nous, on a mis un petit moment à le comprendre. On l'a compris au moment où Milestones est arrivé en France en 1976. Et là, ça a été absolument éclatant et bouleversant.
Mais c'est vrai qu'à voir ces premiers films qui ont l'air à première vue de documenter ce qui serait une action militante. Là, on est avec un groupe terroriste qui prépare une action armée dans une Amérique en guerre avec le Mexique où sévit une police secrète, la SECPOL, une police complètement fasciste qui émascule littéralement les militants qu'elle arrive à attraper. Ce qu'on voit surtout, Patrice Romain, je ne sais pas si vous l'avez revu, ce ICE récemment, mais ce sont ces débats sans fin sur la nécessité de l'action, qu'est-ce que ça va entraîner, et même sur la fabrication des films qui, en temps réel, documentent tout ça. Patrice Romain.
Oui, je connais moi cette période, mais j'ai vu Ice, effectivement, et c'est très drôle parce que quand vous disiez le doute, je pensais à son dernier film, Cité de la Plaine, où il dit aussi ça, il fait état aussi de ce doute dans une interview avec... Patrick Lebout, je crois, dans L'Image du Monde, il fait aussi ce doute. Est-ce que je dois continuer à voyager, pas voyager? Est-ce que le monde n'est pas partout comme dans ce qu'il est en train de filmer, c'est-à-dire le grand centre commercial de Raline? Enfin voilà, c'était très intéressant chez Kramer, ça, cette histoire de pas dire je sais, quoi.
De remise en question, y compris d'un modèle, Charlotte Garçon, qui est le cinéma hollywoodien de l'époque. On a entendu ces ruptures là du son. Il y a dans le film ces slogans révolutionnaires qui sont utilisés de manière ironique souvent. Je crois que Robert Kramer, à l'époque, probablement, et je crois que même qu'il l'a dit, a vu les films de Godard, par exemple, il parle de Vivre sa vie de À bout de souffle. On est à la fois dans ce dialogue avec cette nouvelle vague européenne et des moments très hollywoodiens. Je pense à ce moment dans Ice où le personnage joué par Robert Kramer attend avec un fusil l'arrivée de la police. Et là, on est dans une scène d'action presque hoxienne dans son déroulement, Charlotte Garçon.
Oui, ça fait penser au western aussi, parce que la façon dont il tient sa carabine comme ça. Et puis, il y a des accélérations, des moments d'action où on est ramené au fait qu'il s'agit quand même de fiction. Et on est toujours... c'est aussi ça, le vertige. C'est qu'on est pris dans une forme de documentarité. parce qu'on se dit, mais puisqu'il nous montre des gens qui sont en train de fabriquer des films, ça ne peut être que ça, auto-réflexif. Et puis après, on a des moments d'action tellement impossibles à voir dans un documentaire qu'on se dit, ah mais oui, bien sûr, tout est fictionné aussi. Donc c'est aussi ça qui est... Et c'est vrai que j'ai trouvé un texte de 1980 où il dit, il revient déjà sur son travail et il dit, il ne s'agit pas d'une autobiographie, plutôt de la trace d'une certaine conscience, d'une attitude et d'un désir confronté à une impasse. Et c'est vrai que même quand il décrit l'action, les gens qui sont au cœur du grand soir, hein, c'est quasiment le grand soir parce que c'est ça, c'est un soir, il va falloir tirer sur des gens, etc. on sent l'impasse très très fort, quoi. C'est terrible, je trouve ça.
Richard Coppens.
C'est pas seulement une attitude cinématographique, hein. Enfin, ça l'est, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est que, à cette époque-là, une partie newsreel est très proche de, même du Weather Underground. C'est-à-dire les groupes clandestins qui prônent la lutte armée aux États-Unis, qui vont faire des attentats au Pentagone et dans des divers lieux importants aux États-Unis. Robert Kramer les fréquente, il les connaît, il n'en fait pas partie. Il a aussi, je crois, et ça court dans tous ses films, une fascination pour, je dirais, les armes et la violence. Je dirais une fascination, non pas qu'il l'emploie, lui, mais quelque chose qui est, je ne sais pas, si c'est la marque du pouvoir, si c'est la marque de la violence, si c'est une tentation dont il ne veut pas jouer directement. Mais dans beaucoup de films, il y a quelque chose qui va jouer avec les armes. Dans le premier film qu'il va faire en France, enfin dont on parlera peut-être plus tard, dans Guns, il s'agit de trafic d'armes. Une des séquences les plus importantes... Enfin, il y avait une des séquences où on devait visiter un stock d'armes. On n'a pas réussi à visiter le stock d'armes, donc la scène est extrêmement sombre, comme ça on ne voit pas qu'il n'y a pas d'armes. Mais c'était très important, c'est pas pour rien que le premier film en France raconte un trafic d'armes. Et donc, de voir Robert dans Ice avec ce fusil, je sais pas trop bien quelle arme c'est, ça tient à sa fascination pour ces objets qui pourraient renverser le monde, mais qui sont sans doute pas la solution. Après, à un niveau collectif, c'est autre chose. Quand il s'agit du Vietnam, il en parle différemment, et donc, là, c'est une autre histoire.
CBS News Time,
8:49.
We're talking today to Jan Phillips outside the Dawson Law School. Jan has recently finished serving 2 years of a 5-year sentence for conspiracy to transport explosives across state lines. Formerly a practicing lawyer, she was disbarred for a felony
conviction. She must talk too long.
She's now working as a legal aide.
And flat.
Today is a speaker at a conference on women in prison.
Where are you?
Jan,
hey,
why did you commit your crime?
Well, you really look good.
I suppose I've had a lot of time to think about that in the last few years. And seems to me that circumstances propelled me towards that particular action at that time. It seemed the right thing to do.
Professional.
But other people seem to be able to carry on. And it's all part of a ongoing struggle against the political powers that oppress all of us in this country.
Talk slower.
It will continue. People will continue to carry on these actions, whether I myself take part in them or not.
Jen, you were in prison for 2 years. What do you have against prisons?
Well,
God,
prisons turn
questions.
Out to be more or less a junk pile for the third world and poor people that this society has no place for, has no jobs for, has no education, training, or housing for. And, you know, you can pick up a kid on the street and
I don't know
if he's
how.
Poor, he doesn't have access to adequate legal representation.
It'll all be over soon.
Now,
and there'll be two of you.
Rehabilitated them. Prison only trains people to be able to live in prison. Moreover, it's even harder
to
get a start out in free society after you've been released from prison, because then you have the label, as well as all your other problems of being an ex-con.
Thank you very much.
Une avocate qui vient d'être libérée de prison après y avoir passé 2 ans pour avoir transporté des explosifs entre deux États regarde son interview à la télévision avec une copine qui est enceinte, puis un chaton qu'on a entendu aussi, et puis tout le monde commente ce qui se passe à la télévision. C'est Milestones, immense film de Robert Kramer, pas seulement pour la durée, mais pour ce qu'il marque d'un moment de l'histoire de Kramer et des États-Unis. Vous avez raconté, Richard Coppens, que quand vous avez découvert ce film, c'était un soir de décembre 1975 au cinéma, vous avez passé votre temps à pleurer.
En sortant, oui, mais sans doute ça résonnait avec mon histoire personnelle à ce moment-là, mais le film, ça a été comme un coup de poing, parce que c'est pas seulement que c'était passionnant politiquement et que ça résonnait avec des questions de peut-on faire la révolution, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on doit passer à une autre forme d'action, est-ce qu'il faut abandonner le collectif pour bref, toutes ces questions qui sont fortement politiques et qui d'ailleurs sont toujours les mêmes aujourd'hui. Mais c'était aussi qu'il y avait une forme cinématographique. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais vu Chris Marker ou Joris Ivens, mais cette forme-là, pour moi, c'était une découverte extraordinaire. Et pour beaucoup de jeunes cinéastes, je dirais, pour nous, ça a été un bouleversement total. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui pouvait avoir des idées politiques d'extrême gauche, révolutionnaire, enfin en tout cas sans les mettre forcément en pratique par la lutte armée, mais sa lutte à lui, c'était le cinéma. Et sur le terrain de cinéma, sa responsabilité de cinéaste, c'était pas seulement d'avoir des idées politiques, révolutionnaires, c'était d'avoir des idées cinématographiques et d'inventer des formes. Et là, moi, pour moi, à ce moment-là, ça commence à être la fin de Ciné-Lutte, c'est l'idée, oui, le documentaire politique, c'est bien, mais notre responsabilité de cinéaste, c'est aussi de faire des films et d'inventer des formes. Et ça, Robert nous l'apportait vraiment comme une espèce de démonstration magistrale, quoi.
Mais une des formes qu'invente Robert Kramer à ce moment-là, et c'est intéressant qu'il sorte la même année que le Nashville de Robert Altman, c'est qu'on est dans un film fleuve, un film avec 50 personnages, il y a 6 lignes narratives qui s'entrecroisent et qui racontent précisément voilà, ce moment où qu'est-ce qu'on fait après le Vietnam, qu'est-ce qu'on fait au moment où on sort de prison, qu'est-ce qu'on fait au moment où on sort des communautés quand on est hippie, qu'est-ce qu'on fait quand on a été militant de la lutte armée et qu'on reprend le travail à l'usine et qu'on va passer au syndicalisme. C'est ce moment de bascule, Patrice Robin.
Oui, moi j'ai vu ce film aussi, c'est absolument extraordinaire. J'ai même d'ailleurs un peu hésité à en parler dans mon livre, mais c'était la correspondance, puisque je travaille là-dessus, la correspondance entre les films de Kramer et ma propre vie était trop anecdotique. L'anecdote étant du côté de ma propre vie, hein, pas de celle de Kramer. Mais évidemment, la dernière scène, par exemple, cet accouchement en live, là, je sais pas combien de temps ça dure, ça m'a paru durer 45 minutes, c'est ça?
Ou je sais pas. C'est entrecoupé d'autres moments, mais effectivement, on a tout l'accouchement.
Voilà, un morceau de cinéma qui vous reste gravé dans la mémoire, qui vous restera gravé dans la mémoire jusqu'à la fin de votre vie, quoi. C'est pas très agréable.
Charles Garçon.
Oui, ce qui frappe, c'est... Alors, vous parliez de forme. En fait, je ne sais pas si je saurais la décrire. Je suis même étonnée que vous ayez compté les lignes narratives, parce que j'aurais bien été incapable de dire combien il y en avait. Donc, bravo. Mais justement, c'est l'organicité de tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que se pose la question, oui, de comment vivre sa vie politiquement, mais là, qui rentre dans l'intime, dans la famille, parce que ces gens ont des enfants. Alors, il y en a une qui accouche à la fin du film, mais en fait, il y en a qui ont déjà des enfants avant, qui sont en couple, puis pas en couple, qui se posent des questions. Est-ce que c'est un couple itinérant? Il y a un couple comme ça qui va vers la ville, qui retourne vers la ville, etc. Et là, on est dans l'intimité. C'est-à-dire qu'on se pose des questions de vie intime, amoureuse. Il arrive à embrasser tout ça, et y compris, du point de vue de la forme aussi, à faire surgir tout à coup des archives ultra-politiques, que ce soit l'histoire des États-Unis, de l'esclavage, de la fin de l'esclavage, ou du Vietnam. Comme ça, il se permet de le... Et c'est pas une rhapsodie. Ça, on n'a pas l'impression de choses d'une espèce de patchwork un peu mal agencé. C'est tout ce tien, en fait. C'est ça qui est fort.
Et puis ce film aussi arrive après 5 ans de silence, quoi. Enfin, après People's War. C'est un film, moi, qui m'a beaucoup marqué, People's War. Donc après une espèce de remise
tournée au Vietnam.
Au Vietnam, hein. Une espèce de remise en question de est-ce que je dois continuer à faire du cinéma, ou je crois que c'est ce qui se dit. Je vais dans l'action politique et fonder cette communauté, enfin cette communauté d'aide dans le Vermont là, pour aider les déserteurs. Et puis voilà, donc c'est effectivement un film fleuve et qui reste sur lequel on est un peu... On est envahi par ça.
Mais vous le rencontrez, Richard Coppens, pas au moment de Milestone, vous le rencontrez 4 ans après, c'est en 1979, avant que vous fassiez ensemble Guns, justement, votre première collaboration. Et cette réflexion politique sur qu'est-ce qu'on fait après, c'est aussi une réflexion de Robert Kramer sur qu'est-ce que je vais faire dans mon cinéma maintenant, quand vous le rencontrez.
Oui, alors, juste, je reviens un tout petit peu sur Milestone, parce que ce qui est très fort aussi, et ce qui se manifeste si puissamment, c'est ce que Robert appelle l'expérience. Experience. Un mot américain en anglais, experience, qui ne se traduit pas en français. L'expérience, en français, ça veut pas dire grand chose. Enfin, ça veut dire autre chose, c'est très précis. On dit expérimentation scientifique, l'expérience, mais... Alors que chez Robert, c'est quelque chose qui est un bloc de vie, un moment qui est un bloc, qui est lié à la question d'un personnage. Et son expérience, elle est intransmissible, mais pourtant il faut essayer d'en saisir la totalité pour essayer d'en faire du cinéma. Et donc tous les personnages de Milestones sont là avec leur expérience, leur corps, leur rapport à la nature, leur rapport aux autres, leur rapport à la politique. Il y a toute la sphère possible autour de chacun des personnages. Et cette question de l'expérience, elle va prendre d'autres formes, mais elle va être permanente dans le cinéma de Robert Kramer jusqu'à Cité de la Plaine. Chaque fois en prenant d'ailleurs des formes ou des protocoles de travail qui seront différents. Mais cette question de l'expérience, je suis persuadé qu'elle est centrale. Et qu'elle, elle, qu'elle, Parce que c'est pas la question de définir un personnage, ni d'écrire une structure narrative, ni de formuler le sujet d'un documentaire. C'est plutôt la question du sujet avec un majuscule, une majuscule, le sujet. Et quelle est l'expérience de ce sujet? Et le sujet, c'est Robert. C'est Robert, donc c'est toujours extrêmement subjectif. Enfin, on va en parler pour d'autres films. Mais donc, déjà dans Milestones, il y a ça. Alors, ce qui est étonnant quand je le rencontre, c'est que cette question-là n'affleure pas. C'est pas ça dont on parle. Il arrive en France. On lui a dit que c'était la terre du cinéma. Hélène Vager, la productrice qui l'a convaincu de venir travailler en France, va produire ce premier film et puis deux autres avec lui. Et donc Robert se situe tout d'un coup sur le terrain du cinéma. C'est-à-dire c'est comme s'il voulait prouver « je suis un cinéaste » parmi les cinéastes français, donc c'est pas les moindres. Et donc il est dans des problèmes de scénario, de casting, de questions de caméra. Je me souviens de la première discussion avec lui. Je rencontre Robert Kramer, moi je suis bouleversé, et il me parle des objectifs Zeiss grande ouverture qui venaient d'apparaître, qui permettaient de tourner avec deux fois moins de lumière, parce qu'ils ouvraient à 1.4. Et donc, moi je suis presque déçu, parce que je m'attends à une discussion politico, voilà. Donc, il y a cette relation au cinéma qui est au fond de s'imposer sur le terrain de la fiction.
Freeze, you son of a bitch! Are you alone? Who's Arthros?
Run this down! You better come and get him before I blow his goddamn head off. You want to see what was inside? Did you do this? Did you write that shit? Huh? You fucking...
Come on, Sonny. Get inside there.
What is this? This yours?
Here, take your little papers. Go inside. Just turn around. Turn around. You good boy. Turn around.
Jimmy Madder?
Who are you? Empty your pockets!
I'm looking for James Madder.
What do you want? What are you doing here?
I'm his son. I'm looking for James Madder.
You Jimmy, huh?
Jesus Christ.
Vous aurez peut-être reconnu la voix du jeune Vincent Gallo, car c'est lui qui joue dans ce Doc's Kingdom face à Doc Paul McIsaac, première apparition du Doc dans le cinéma de Robert Kramer, même si en fait c'était ce Paul McIsaac, un des personnages de Ice, un des révolutionnaires filmé à l'époque par Robert Kramer. Donc Doc vit à Lisbonne sur une maison des bords du Tage, et il va tous les jours dans un hôpital où il travaille, et puis il a laissé un fils aux États-Unis qui, à la mort de sa mère, va essayer de découvrir qui est son père. Vous aviez parlé, Richard Coppens, pour ce tournage à Lisbonne de Doc's Kingdom, d'un tournage épuisant, délirant, mais un tournage d'immense bonheur.
Oui, parce que c'est un film qui marque, je dirais, le départ d'une nouvelle liberté pour Robert. Robert sort de Diesel, un film de science-fiction très cher dont il n'a pas pu tourner tout le scénario. Le montage lui a été retiré à la fin, donc c'est une épreuve et c'est une souffrance, et le film lui échappe complètement. Et Paolo Branco, producteur, installé à Paris et à Lisbonne, lui propose, lui dit « Écoute, si tu fais un film pas cher, va vivre 4 mois à Lisbonne, écris une histoire pas chère, et on fera un film pas cher à Lisbonne. »
Donc c'est ça, c'est la méthode Branco.
Oui, mais c'est magnifique. C'est de l'ordre du cadeau, de la main tendue. Et donc on va faire le film avec peu de moyens, une toute petite équipe. Paul va venir jouer Doc. Et donc il y a ce tournage qui ne s'improvise pas, parce qu'il y a quand même un énorme travail de Robert. Enfin, et le film va tout d'un coup faire affleurer des questions qui vont devenir essentielles chez lui, en particulier ce qu'il a appelé la question du trajet. Tout d'un coup, il s'enthousiasme pour la question du trajet. Il dit, le mot existe en français, en anglais, il n'existe pas. Trajectory, ça veut rien dire, c'est la trajectoire d'une balle, donc c'est pas ça. Et donc le trajet, il le rapporte à la question de l'expérience. C'est donc, c'est quoi quand le docteur se lève le matin, part de cette petite baraque au bord du Tage et va jusqu'à l'hôpital Saint-José en centre-ville.
Et ça, ces trajets, vous les décrivez dans votre livre, Patrice Robin, Mon histoire avec Robert, comment on passe d'un container, un terrain vague...
Oui, c'est surtout ça qui me... Moi, c'est le premier film que je vois, Dog's Kingdom, et je le vois à sa sortie. Et j'habite au Havre, et j'habite surtout sur un appartement qui donne sur le port de pêche, et au loin, je vois les conteneurs, etc., et je vais me balader. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est que la correspondance biographique entre Doc et moi. Bon. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière dont Robert Kramer filme ce trajet qui emmène Doc au matin. C'est-à-dire qu'il, tout d'un coup, il disparaît, je sais pas si vous vous souvenez, mais il disparaît entre deux piles de conteneurs, on sait pas très bien pourquoi. Et voilà. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est plutôt la correspondance, en fait, plus que biographique, plutôt la correspondance esthétique, parce que je commence déjà à cette époque-là à penser un peu littérature, et le port du Havre se retrouvera dans le cadre de mes livres. Donc,
Et sauf que ce trajet, Charlotte Garçon, ce n'est pas un long, comme le ferait par exemple un Bellatar, qui suivrait en plan séquence un personnage allant d'un point A à un point B avec toute la durée de ce trajet. C'est le montage chez Robert Kramer qui va morceler, fragmenter et reconstituer cette expérience dont parlait Richard Coppens.
Oui, il me semble que vous parliez d'expérience. Effectivement, là, c'est dans le corps. On a l'impression qu'il y a deux choses qui sont rendues, notamment par le montage, c'est-à-dire à la fois cette continuité, cette organicité de tout, le fait qu'il fait partie de ce décor, enfin qu'il n'arrive pas à s'en détacher. D'ailleurs, il est coincé, il est vraiment englué dans ce lieu, dans son espèce de bicoque atroce, qui est en plus attaqué par des gens parce qu'il c'est le gringo local. Donc, voilà, on lui casse sa fenêtre, etc. Donc il est en même temps complètement comme une barnacle là dans ce port, et en même temps le montage fait aussi sentir une forme de dissociation très forte. On a l'impression qu'il y a une étrangeté qui sera jamais résolue. Et d'ailleurs le fils qui arrive au mauvais moment, enfin comme on l'a entendu, il manque de le tuer, c'est pas pour rien. Et il dit voilà, l'autre est dans une sorte de fantasme de filiation, enfin très un imaginaire de la filiation, et lui dit je veux savoir qui est mon père. Enfin, tout ça est un peu idéalisé. Et lui, il dit, il y a deux réponses. Un, tu n'as pas de père. Et deux, il y a moi. Et donc, j'ai l'impression que le montage rend cette espèce de tension entre quelque chose de tout est lié, et puis d'un autre côté, tout est dissocié, diffracté, éclaté. Quoi.
Et puis, il y a un projet qui naît pendant ce tournage, et qui est explicité même par une écriture. Il y a un moment, le personnage de Doc va écrire « I will come back to the States and do a trip across the country. » Je vais retourner aux États-Unis et faire un voyage à travers le pays. C'est effectivement ce qu'ils vont faire ensemble avec Robert Kramer.
Oui.
No, no, this is serious. No, life on Route 1.
It takes 25 years to grow a tree, you know what I mean? It takes 10 years to grow one in Georgia or Louisiana. So I know, I go to work, anytime I want to. For anyone who wants.
Why? Oh, I love it. Life on Route 1, I have another 40 years to go. That would make me 80.
You're going to be crazier than Tupac and Paulette by the time you get to Georgia. I can't take it.
Et oui, on rit beaucoup aussi dans le cinéma de Robert Kramer. La vie sur la Route 1, c'est évidemment Route 1 USA, film fleuve là encore, hein, 260 minutes je crois, et encore un chef-d'œuvre que ce Route 1 USA qui avait fait l'événement lors de sa diffusion à la télévision et en salle en 1989. On en avait parlé déjà avec vous, Richard Coppens, vous êtes vraiment un habitué de l'émission quand vous étiez venu parler de l'anniversaire des films d'ici. C'est un moment important pour Robert Kramer, non seulement parce qu'il retourne aux États-Unis et qu'il va voir où on en est et comment ça va ou ne va pas ce pays 10 ans après son départ, mais c'est aussi le choix de Robert Kramer, enfin peut-être, de prendre la caméra lui-même.
Oui, alors il l'avait sans doute déjà prise, mais effectivement c'est le premier film où vraiment il prend la caméra. Et moi je peux dire que je suis absolument pour qu'il prennent la caméra, et en même temps c'est une souffrance absolue parce que ce que je préfère moi c'est prendre la caméra, mais c'est évidemment bien mieux que lui tourne lui-même ce qu'il voit, que son expérience physique à un moment donné devienne des images. Ce qui est intéressant dans Route 1, c'est que quand on a commencé le film, Doc était là, mais c'est pas Doc qui était là. Paul McIsaac devait faire le journaliste. Même si Robert avait certainement déjà imaginé que ça serait Doc, puisque déjà dans Doc's Kingdom, il avait imaginé que lui et Robert seraient dans le film avec Doc. Mais quand on commence Route One à Fort Kent, eh bien, les premières scènes que nous tournons, Paul McIsaac pose des questions comme un journaliste intelligent, proche du réalisateur, etc. Et on a une discussion au bout de 3 jours, toute l'équipe, hein, effectivement, quand au début du film, il y a un générique qui dit un film fait par avec les saints. Il y a vraiment, on était tous complètement dans le coup, quoi. On faisait le film, c'est le film de Robert. Mais on est tous là ensemble pour essayer de réfléchir et de déterminer ce qu'on va faire. Et il y a une discussion, on dit, mais on va pas faire 5000 kilomètres en filmant derrière l'épaule d'un mec comme un journaliste, c'est pas possible.
Il s'agit de descendre donc la Route 1, qui est cette route qui descend du Canada jusqu'en Floride, jusqu'au bout de la Floride, le long de la côte Est.
Qui suit la côte Est, donc Boston, New York, Washington, Miami, bon. Et donc on va mettre 5 mois à faire cette route, et donc, très rapidement, et ben Robert dit, en fait, Doc va devenir Doc, et donc le personnage de Doc va se construire dans les premières séquences, devenir un personnage à part entière, jusqu'au moment... Mais il y a donc le voyage de Doc et il y a le voyage de Robert. Et donc les deux voyagent côte à côte. On passe d'une fiction improvisée à un documentaire subjectif maîtrisé de Robert, et les deux se confondent en un seul flux, qui est cette découverte de l'Amérique, bien différente de Milestones, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un portrait de la marge révolutionnaire hippie, c'est au contraire l'Amérique profonde, ceux qui sont vraiment fondamentalistes, un quartier pauvre de New York, un soldat noir de retour du Vietnam, des Haïtiens à Miami. On est avec le petit peuple américain, avec toutes ses composantes et toutes ses contradictions politique et religieuse. On n'est pas tout le temps chez des amis, mais Robert les traite tous avec la même bienveillance. Et ce qui est très surprenant, parce qu'au moment où on est dans la communauté fondamentaliste au nord de Boston, ce sont des ennemis. Enfin, je veux dire, il y a pas de doute. Ce sont des racistes, ce sont des impérialistes, et on les filme avec une vraie, pas une empathie, mais une vraie curiosité, eh bien, dites-nous ce que vous pensez, dites-nous ce que vous croyez. Et au final, l'Amérique est faite de tout ça. Alors, il y a évidemment des portraits magnifiques, des gens magnifiques, mais il y a aussi des gens qu'on aime moins, mais qui ont leur place dans le film. Ce qui donne une force incroyable encore au film aujourd'hui, parce que c'est toute l'Amérique qui est là.
C'est pas... Oui, moi, c'est vraiment le film qui fait ma rencontre avec Robert Kramer à tous les points de vue, quoi. Tout ce qui m'intéresse. Alors d'abord parce qu'il filme des gens modestes, comme dit Richard Coppens, c'est un milieu dont je suis issu, donc ça me touche beaucoup. Parce qu'il y a un travail d'effacement de la frontière entre fiction et documentaire avec Doc, et notamment le départ de Doc, de Paul McIsaac, du film, qui m'a beaucoup intrigué. Il y a aussi ce très beau portrait, grande attention au réel, bien sûr, et grande attention aux autres, avec ce très beau portrait, je trouve, du vétéran, ce magnifique qui raconte son dernier jour de guerre. Dernier jour qui dit toute sa guerre, tout ce qui a précédé, ça c'est vraiment formidable. Et bon, alors moi, ce film, j'en ai regardé quelques extraits hier et j'ai dû me retenir de pas regarder encore une fois les 4 heures.
Il faut avoir une nuit devant soi quand même.
Viens ici. Viens. Ne reste pas. Viens là. Viens. Faut pas rester ici. C'est pas bon, tu vois. Tous ces désordres. Viens. Ne reste pas. Viens. Aie confiance. Viens. Voilà.
J'avais vraiment besoin de partir d'un endroit où je ne pouvais plus respirer. Mais c'était la faute de personne.
Oui.
Non, c'était juste que... Je chante de la musique classique. Mais je vis dans ce monde maintenant. Et je crois que ma voix sera le résultat de ma vie.
Je crois que ma voix sera le résultat de ma vie. C'est une jeune femme qui chante, on l'a entendu. C'est une des trois protagonistes de Walk the Walk de Robert Kramer en 1995. On pourrait dire que c'est à l'Europe ce que Route 1 USA était aux États-Unis. Il s'agit d'aller voir comment va l'Europe à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup ce « Je crois que ma voix sera le résultat de ma vie ». Ça me fait penser à un moment, Charlotte Garçon, de Route 1 USA, où ils vont rencontrer un fabricant de manège qui va dire... je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on construit comme on écrit pour voir comment ce sera à la fin. Et c'est le sentiment qu'on a sans doute faux quand on voit la somme des écrits dont parlait Richard Coppens de réflexion sur le film, que les films qu'on voit, aussi bien Walk the Walk que Route 1, s'inventent sous nos yeux.
Mais oui, c'est peut-être ce qu'il a essayé de faire, et je trouve réussi à faire, qui est de montrer un état, pas seulement de transformation, mais plutôt d'incertitude quant à ce qu'on va devenir. Et là, pour le coup, dans Walk the Walk, ça prend la forme du fait que la jeune fille a été peut-être contaminée en aidant quelqu'un qui est contaminé par le virus du sida dans la rue et qui saignait beaucoup, et qui se demande s'il faut qu'elle fasse le test, et pourquoi, et comment. Et donc, du coup, ça la met dans une situation non pas psychologique, mais plus de rapport au temps très particulier, au futur, au présent, et on a l'impression que c'est exactement le point qu'il essaye de saisir, aussi du point de vue historique, dans cette Europe de l'après-chute du mur, et où il va quand même dans ce film, que alors pour le coup j'ai vu jeune, c'est-à-dire j'ai vu à l'âge de l'héroïne, donc c'est peut-être le film qui m'a tout de suite le plus parlé, et il va jusqu'à Odessa, c'est-à-dire que du coup on le suit, puisque là il y a trois personnages, le père, la mère et la fille, mais chacun, on a vu ça dans aucun film, chacun se sépare au début du film, et chacun approuve finalement que l'autre parte. C'est comme si eux aussi faisaient le film ensemble et disaient pour le film c'est mieux, même si nos vies elles sont brisées par cette séparation.
Il n'y a pas que trois personnages, il y en a quatre, parce qu'on a Robert Kramer qui non seulement tient la caméra, Patrice Robin, mais qu'on entend régulièrement apostropher, discuter avec les personnages du film, qui lui demande son avis d'ailleurs de temps en temps.
Oui, moi c'est pour, je parlais tout à l'heure d'effacement entre le documentaire et la fiction, là c'est très étrange. Quelquefois il répond, quelquefois il répond pas, il répond à Laure du Tilleul à un moment qui lui dit... Vraiment, cette photo, on s'est rencontrés, et quand il lui répond, mais tu t'en souviens pas, on a l'impression qu'il est en train de parler à sa propre femme. Et on sent peut-être qu'il y a aussi quelque chose d'autobiographique, évidemment. Moi, je suis vraiment très sensible, et sensible aussi à des moments que j'appellerais de poésie dans Route 1, par exemple, enfin, pour rester sur World of Warp, quand je sais pas comment ça, je me souviens plus comment s'appelle le personnage principal dans le film, l'homme.
Enfin bref, Abel.
Quand il part d'Odessa vers les Balkans, et quand il traverse la gare routière d'Odessa, il y a tout à coup un homme, alors Robert Kramer filme évidemment plein tous les gens, il y a un homme qui se retourne vers la caméra, qui sourit, et puis ensuite ce sourire se prolonge dans le sourire d'Abel qui est dans le bus, et ça c'est des moments que je trouve particulièrement poétiques, comme l'est par exemple la danse entre Doc avec la compagne qu'il a trouvée à Miami, il y a quelques notes de danse.
Non, je n'ai pas le même avis sur la danse. Non. Non, mais je reviens juste sur la fin de Route 1, parce que les relations entre Robert et Doc, donc au début, en toute amitié, on y va, ils vont redécouvrir l'Amérique ensemble, mais à un moment donné, en fait, la vérité est qu'ils ne se supportent plus. Et donc à ce moment-là, Doc doit partir, absolument. Alors ça devient un artifice de fiction, ouais, c'est-à-dire Doc va aller chercher du boulot en avance à Miami, mais la vérité c'est que Robert et Paul sont arrivés un peu au bout de leur dialogue, d'accord ? Donc c'est un résultat de la vie du tournage, c'est pas un scénario. Et puis le docteur va à Miami, mais toutes les séquences qui concernent Doc à Miami... Il cherche du boulot, il a une maison, il a une femme. Enfin, c'est voilà, le personnage trouve ce qu'il cherchait, une maison, un travail, une femme et tout. Les séquences sont toutes relativement ironiques parce qu'il a sa maison, mais en fait, il a pas vraiment le bail. Il trouve du travail, mais il va être très très mal payé. Et le dernier plan qui est, il danse avec cette femme, avec cette jeune femme portoricaine dans une lumière de boîte de nuit. C'est l'inverse de ce que Robert souhaite vraiment à tous ses personnages. Donc juste pour terminer là-dessus, c'est pas tout à fait le cas. Juste sur Walk the Walk, c'est aussi l'expérience d'un moment de sa vie. Et je pense que le départ de Ray, c'est très proche des questions qui se posent dans le départ de sa fille Kija Ho, qui a atteint la majorité et qui va partir, qui part dans d'autres aventures, dans sa vie à elle. Kija est sur le tournage, mais le film raconte ça aussi, ce qui se passe entre un père et une fille. Donc c'est, encore une fois, l'expérience de Robert qui est au cœur de ce qui se passe dans ce film.
Mon fils le plus infortuné des mortels.
Oh, mais si.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Robert Kramer avec Richard Coppens, Patrice Robin et Charlotte Garçon. C'est le dernier film à notre programme dont on entend un extrait. C'est le dernier film tout court pour Robert Kramer, emporté il y a presque exactement 20 ans, le 10 novembre 1999, d'une maladie fulgurante. Et c'est Cité de la Plaine que vous avez produit, là encore, Richard Coppens, qui a été terminé sans lui, mais avec l'aide de sa fille dont vous veniez de parler, Kija Ho Kramer. On a tendance, évidemment, quand on voit le dernier film d'un cinéaste, c'est-à-dire est-ce que c'est un film testamentaire, etc. C'est tout le contraire, c'est un film qui déborde de vie et de paroles en permanence. On entend, là, ici, c'est une scène mythique, mythologique, avec cette odyssée d'Homère traduite en cinq ou six langues chuchotées tout en même temps. Il faut peut-être rappeler la genèse de ce film assez particulier et qui, selon vous, Richard Coppens, vous en aviez parlé à l'époque, devait marquer une nouvelle étape encore dans le cinéma de Robert Kramer.
Ben, c'est né d'une invitation de l'école du Frénois, Alain Fleischer, qui a déjà, l'école démarre à peine, ça fait un ou deux ans qu'elle existe, et pour chaque promotion, il y a un artiste invité qui vient accompagner pendant un an la promotion des étudiants du Frénois. Et donc, en général, on propose aux professeurs invités de passer un certain nombre de journées, de garantir qu'ils seront là un certain nombre de journées, et on les aide à faire un film ou à faire une œuvre. La plupart des personnes qui vont venir, ils font des allers-retours entre Paris et Tourcoing. Robert, lui, il va dire « Non, je m'installe là ». D'ailleurs, il y a des chambres à l'école du Frénois, donc il va vivre à l'école du Frénois pendant un an. Il va vivre à l'école du Frénois, il va travailler avec les étudiants, et puis il va marcher, comme il le fait toujours. Il va marcher, il va parcourir, il va errer dans la ville, il va prendre des photos. Et il va sortir un premier texte, le premier texte qu'il m'envoie. Je ne sais pas si c'est un projet de film, mais c'est une analyse urbaine de la vieille ville classique, de la métropole qui bouffe... Enfin, une analyse absolument pertinente. Et d'ailleurs, elle donnera lieu en même temps à un dialogue au Centre Pompidou entre Robert Kramer et Rem Koolhaas, qui n'est pas le moindre des architectes et urbanistes actuels. Et donc, cette réflexion sur la ville, le scénario part de ça. C'est très surprenant. Alors, il part de ça, et puis de personnes qu'il a rencontrées. Pas de l'école, les étudiants ne sont pas dans le coup, sa charge professorale n'apparaît pas du tout, mais par contre, là où il a vécu pendant un an, ce quartier qui est à l'époque est en déshérence absolue, eh bien, ça devient le foyer de ce récit d'un immigré qui est sur la fin de sa vie, aveugle, qui raconte son arrivée, son travail, etc., ses amours, sa famille, etc. Et donc, la ville est devenue un personnage à part entière de son cinéma. Et d'ailleurs, il écrira des films sur l'architecture et le cinéma, c'est pareil. Et on sent qu'il y a une nouvelle direction de travail qui, moi, m'intéresse beaucoup, puisqu'en même temps, je suis en train de produire la collection Architecture. Donc, on se conforte dans ce rapport-là entre cinéma, architecture et urbanisme.
Mais Patrice Robin, c'est aussi un moment où il se pose des questions sur la nécessité ou non de voyager. Vous le racontez dans mon histoire avec Robert, votre récit, combien Kramer vous a aidé, vous, à voyager. Mais lui, à ce moment-là, il se dit, peut-être que c'est plus nécessaire aujourd'hui de voyager. Le monde est globalisé, il est partout identique. Et finalement, c'est en filmant très local qu'on va parler global.
Et surtout, il dit ça à 300 mètres de là où j'habite. Hein. C'est ce qui me permet de vérifier que j'ai bien eu une histoire avec Robert et d'écrire ce livre. Oui, effectivement, moi, c'est aussi un livre auquel je suis très, très... un film auquel je suis très, très sensible, parce que je connais tous les endroits qui filment, Roubaix, etc., et que ça me permet aussi de repasser sur... Et puis cette dernière chose, effectivement, ce dernier doute, on en parlait tout à l'heure, de dire, voilà, puisqu'il est, je crois qu'il est dans le centre d'un centre commercial qui s'appelle Euralil, qui ça ressemble à un aéroport, et ça ressemble à tous les aéroports du monde, et je crois que l'intervieweur lui dit, mais bon, c'est peut-être plus la peine de voyager. Alors il dit, mais si, au contraire, enfin, puisqu'on peut, on peut parler de tout partout. Voilà, et c'est la leçon, au fond, que je tire de ça. Mais tout à l'heure, je voulais juste revenir sur une petite chose, juste après, à propos de Routouane, il y a un très beau moment après la séparation entre Paul McKinney Isaac et Robert Kramer. Robert, il y a une chambre d'hôtel où Robert Kramer, on ne le voit pas, mais il sort, il vide ses poches, et c'est la chambre d'hôtel d'un homme seul, tout d'un coup, redevenu seul. Et je trouve ça, ce sont ces moments-là que j'apprécie personnellement dans Robert Kramer, des choses, des envolées très profondément politiques. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais...
Sur le garçon.
Oui, et puis encore, l'aveugle fait aussi penser à cette question de l'expérience dont vous disiez qu'elle traverse tout son... Il y avait déjà un aveugle, il me semble, c'est dans Milestones, qui touchait...
Oui. Qui était le chef opérateur, hein, qui est John Douglas. Oui. C'est John Douglas qui était l'aveugle.
C'est celui qui fait la caméra dans tout le film.
Et qui touchait une étoile de mer, à qui on faisait toucher une étoile de mer. Et c'est presque une métaphore très forte sur... voilà, qu'est-ce que le cinéma permet de voir qu'on ne voit pas avec ses yeux.
À ce propos, le cinéma permet de voir... Moi, je suis très très sensible à une scène qui je crois, c'est vrai que c'est Labarthe qui parlait que le rideau de la réalité se déchire parfois pour laisser entrer le réel. Et dans People's War, vous vous souvenez, People's War, il se promène dans la réalité au début du film, c'est-à-dire les villages en ruine, etc. Mais les villages en reconstruction, etc. Le Vietnam continuant à reconstruire son pays, les enseignants continuent à enseigner. Et puis à la fin du film, on est dans un village de pêcheurs. Tout à coup, on voit les gens pêcher, les gens raccommoder les filets, et puis surtout un atelier de construction des barques où les gens scient des longues planches, etc. Et là, il y a rabote, etc. Il y a une très belle bande son. Et là, en voyant ça, je me suis dit que voilà, tout d'un coup, la réalité se déchire et le réel rentre. Vraiment la guerre du peuple dans son essence à ce moment-là. C'est pas un moment où je suis vraiment extrêmement sensible.
Richard Coppens, dernier mot.
Non, la personne qui scie, enfin, ils scient des très grandes planches, ils sont deux, et ils ont des mouvements extraordinaires, et c'est un plan qu'on retrouve dans Point de départ, qu'on va tourner donc en 92 au Vietnam, pendant un stage de formation qu'on a réussi à organiser, et donc il va tourner au Vietnam, donc non pas 69, on est en 92, donc on est presque 24 ans après, et il va filmer exactement la même activité. C'est-à-dire deux hommes qui scient un énorme madrier, ils sont chacun d'un côté, et il y a un va-et-vient. Et Robert filme, en un plan séquence, le mouvement du corps, le mouvement de la scie. C'est bouleversant, c'est magique, c'est l'expérience physique, c'est la transformation du monde, et c'est un moment de cinéma incroyable. Et ça, c'est la maîtrise que Robert avait fini par acquérir, ou qu'il avait peut-être déjà depuis l'origine, mais en tout cas là... Elle crève les yeux, je ne parle pas pour parler des aveugles, mais on voit le plan, c'est juste sublime et sublimement poétique, je suis absolument d'accord avec ça, et en même temps, c'est toute l'expérience de ce moment-là. Il y a le son, il y a l'attitude physique, il y a l'énergie, la transformation de la matière, enfin c'est bouleversant, et c'est un plan, et c'est un plan qui fait le rappel du même plan tourné en 69 pendant la guerre.
Dans lequel, en plus, il y a la phrase d'Ho Chi Minh, il y a aussi la dimension politique.
Suddenly, something in your eyes I see soon begins bewitching me. It It's that old devil blues.
Merci Richard Coppens et Patrice Robin. On clôt ce voyage, ce trajet dans le cinéma de Robert Kramer par ce moment très jazz. On n'a pas beaucoup parlé du jazz chez Robert Kramer. Hommage à Bart Phillips, son grand compositeur. Là, c'était dans Milestones, moment de jazz entre le potier aveugle dont on parlait et saxophoniste et un activiste sorti de prison et qui aime beaucoup les standards américains. La rétrospective Robert Kramer à la Cinémathèque française, c'est du 6 au 24 novembre. Rétrospective à compléter avec Notes de la forteresse 1967-1999. Recueil volumineux et passionnant des textes de Robert Kramer, publié chez Post Édition et édité par un grand connaisseur de son œuvre, Cyril Béguin, qui prononcera jeudi prochain à la Cinémathèque française à 19h une conférence « Qui êtes-vous, Robert Kramer ?». Votre livre, Patrice Robin, « Mon histoire avec Robert » est quant à lui édité chez POL, et puis une nouvelle qui va tous vous réjouir, j'imagine, « Guns », qu'on a évoqué, votre première collaboration, Richard Coppens, avec Robert Kramer, sortira en janvier en DVD chez Revoir. En attendant, chez le même éditeur, fin 2020, on est très impatients, l'intégrale en DVD des films de Robert Kramer en version restaurée. Actualité du cinéma, du réel, toujours, c'est le mois du documentaire qui commence, hein, comme chaque année en novembre. De multiples manifestations un peu partout en France, comme les écrans documentaires du 13 au 19 novembre à Arcueil, avec notamment un focus en sa présence sur l'œuvre de Jean-Gabriel Périot, l'auteur d'Une histoire allemande et puis récemment de Nos défaites, et puis aussi dans 30 salles en France du 20 au 26 novembre, la première édition de Best of Doc, l'occasion de voir et de revoir sur grand écran 16 des meilleurs documentaires de 2018, dont L'Empire de la Perfection de Julien Farreau, un formidable film sur John McEnroe auquel Charlotte Garçon vous consacrait un texte dans la nouvelle livraison de la revue Images Documentaires, revue qui consacre, hormis votre excellent texte Charlotte, un volumineux dossier à l'œuvre de Jean-Daniel Paulet et en particulier à son film de 1974 L'Ordre, qu'on pourra voir sur grand écran toujours dans le cadre du mois du documentaire. Ça sera jeudi prochain à 20h au Centre Pompidou. J'en finis avec cette actualité du documentaire en signalant la sortie aux éditions Montparnasse d'un coffret DVD Il était une fois Jean Rouch, qui rassemble 7 films sur Jean Rouch, l'inventeur de la ciné-trans. Et je rappelle aussi aux auditeurs marseillais qu'ils pourront voir sur grand écran l'indispensable livre d'images de Jean-Luc Godard le 8 novembre en ouverture du festival Les Instants Vidéo Poétiques et Numériques. Documentaire toujours, place aux vapeurs des blanchisseries et au déhanchement des yéyés de l'autre côté du rideau de fer.
Pause.
Ja, eines Tages, als ich nach Hause gekommen bin, hatte mein Verlobter Zahnschmerzen. Naja, nicht raus zum Zahnarzt, hat sich den ziehen lassen. Naja, das Ding hat 10 Mark gekostet, weil privat war. Naja, und dann, wo er nach Hause kam, hat er mir den geschenkt. Ich habe eine dufte Idee gehabt, habe mir das Ding an der Kette gehangen und habe mir zum Hals. Naja, und naja, hier ist er. Ist er nicht schön, ja?
Qu'elles étaient jeunes, jolies et souriantes, ces apprenties blanchisseuses est-allemandes filmées en 1972 par le documentariste Jürgen Butcher, cinéaste souvent interdit d'ailleurs dans son pays. Et à la pause, comme leur homologue de l'Ouest, elles parlaient garçons, elles pensaient au bal où elles allaient se trémousser en mini-jupe au son de la musique qu'on entend, là, dont on a peine aujourd'hui à s'imaginer combien elle était aussi universelle, même dans l'espace soviétique, et oui, ça fait déjà 30 ans que le mur de Berlin est tombé et que dans la foulée de ce mur a disparu la République démocratique allemande, un pays dont longtemps on n'a pas pu, faute d'image, se figurer à quoi ça ressemblait, hein, la vie quotidienne, ses habitants. Alors, merci à l'association documentaire sur grand écran qui, toujours dans le cadre du mois documentaire, propose une rétrospective itinérante qui va aller dans plusieurs salles de France d'une dizaine de films qui ont été produits en Allemagne de l'Est et qui sont censés répondre à une question posée par le programmateur de ce cycle, l'historien du cinéma Federico Rossine. Peut-on retracer à travers sa production documentaire l'effondrement d'un pays qui n'apparaît plus sur les cartes? Bonne question, Charlotte Garçon.
Oui, c'est 10 films courts déroulons sont tous passionnants, mais en fait, il me semble que ce sont les portraits de femmes qui permettent le mieux de se faire une idée de la vie avant et après 1989, une idée un peu plus précise que celle proposée par Goodbye Lenin. J'ose ce titre. Vous souvenez la comédie de Wolfgang Becker d'il y a déjà 15 ans, qui plongeait la mère de son héros dans le coma avant la chute du mur pour ne la réveiller qu'après et s'amuser, s'amuser des effets de ringardisation immédiate sur cette ménagère est-allemande ignorante des bienfaits de la publicité, etc. Et le choix de ce programme, au contraire, c'est d'aller chercher plus loin que le séisme politico-économique de 1989. D'abord avec ces blanchisseuses de 1972 qui, certes, racontent leur quotidien, leurs espoirs. Quand elles le racontent, d'accord, elles ne critiquent pas ouvertement leur mode de vie qui a quand même un peu des allures de plan quinquennal, hein, parce qu'il faut préciser que ce bal est très organisé, puisque les cavaliers ne sont autres que le groupe non mixte, les apprentis éboueurs de Berlin. Mais en même temps, dans ce film, les cadrages rendent vraiment inoubliables ces visages de jeunes filles. Enfin, et là, on a, je trouve, l'affirmation d'une sorte de force vitale individuelle et irréductible au collectivisme ambiant. Et Butcher dira plus tard dans un entretien, hein, après la chute du mur, en fin de compte, on pouvait saisir quelques mots vrais, quelques bribes de vérité au moins, ne serait-ce que dans leurs gestes. Alors, Butcher, encore lui, 5 ans plus tard, va filmer dans Martha les derniers jours de travail d'une septuagénaire qui est l'une, en fait, des dernières Truman Frauen, je crois que c'est même la dernière, c'est les déblayeuses de décombres qui travaillaient en 1945 dans Berlin dévasté. Eh bien, elle a, sans discontinuer, trié les gravats 30 ans durant, debout, dehors, même en hiver, par tous les temps en tout cas, et c'est une différence d'avec les films de témoignages de RFA, souvent c'est des films sur la mémoire, sur la guerre, etc., on pose des questions, et elle parle très peu de la guerre, elle est très évasive par rapport à la guerre, et pour elle, vraiment, on sent que la vie commence presque avec la création de la RDA. Le troisième film de ce programme, c'est pour moi là vraiment une découverte. Il s'appelle Adieu l'hiver et il est tourné, c'est pas rien, par une femme, Helke Misselwitz, qui elle est née juste après la guerre, mais elle a vécu assez jeune la maternité, le mariage, deux divorces. Et on sent que tout ça fait qu'elle décide dans un élan, je dirais, sororal, qui fait vraiment plaisir à voir, de partir de sa ville minière de Zwickau, dans le sud de la RDA, de prendre le train et de remonter vers le nord jusqu'à la mer, en filmant certaines femmes qu'elle rencontre. Alors des fois, elle les rencontre dans le train, au travail, chez elle, et à qui elle pose des questions très profondes, en fait, très très intimes presque tout de suite, et très librement. Des fois, on la voit à l'écran, des fois non. Et justement, cette fluidité, cette liberté donne au film, toute proportion gardée, un petit côté Route One USA. D'ailleurs, ce film est tourné la même année que celui de Robert Kramer. Le dernier film que je vous recommande dans ce programme, au lieu de parcourir la géographie et d'offrir comme Adieu l'hiver une sorte de plan de coupe à un instant T juste avant la chute, lui, au contraire, offre un incroyable feuilleté temporel, puisque il est signé par un maître du documentaire est-allemand, lui aussi encore vivant, hein, et qui est venu ces dernières années souvent au Festival Cinéma du Réel au Centre Pompidou, c'est Volker Koepp. Et lui, sa spécialité vraiment, c'est de filmer, mais surtout de revenir filmer. Alors ça, c'est une sorte de sous-genre documentaire que j'adore. C'est vraiment le documentaire qui vient voir ce que les gens sont devenus. Et lui, il s'intéresse surtout à des territoires dont les frontières ont beaucoup bougé au XXe siècle, et avec des déplacements de population forcés, etc. Et là, il a donc filmé sur 20 ans depuis 1974 un petit groupe d'ouvrières dans 3 films, dont ce dernier qui s'appelle Du Nouveau à Wittstock. Et là, il filme de 1988 à 1990. Mais heureusement, il met aussi des extraits des précédents épisodes, films. Alors évidemment, c'est à ce moment que les changements deviennent drastiques et les ouvrières commencent par démissionner du parti. Alors fini les 1er mai comme ça en liesse. Voilà, le 1er mai, il se passe quasiment plus rien. L'usine se prépare à être privatisée. Les licenciements deviennent massifs. Certaines vont même déménager à l'ouest, mais à contre-cœur. Et les rares qui peuvent rester dans l'usine voient débarquer des jeunes formatrices de l'ouest qui leur inculquent voilà, une meilleure rentabilité, un rythme plus soutenu. Bref, on voit bien que c'est une sorte de double peine qui se profile à l'horizon. Et je cite Renate, la plus âgée des ouvrières, « On nous a insufflé la peur et nous l'avons bouclée pendant 30 ans et on continue à la boucler. La peur subsiste. » «
Merci Charlotte Garçon. Toutes les informations sur le cycle RDA 80-90, le cinéma du tournant, c'est sur le site franceculture.fr à la page Plan Large. Et à noter que Adieu l'hiver de Elke Miselwitz, dont vous venez de nous parler et dont on entend la chanson de fin, sera également projetée à Belfort dans le cadre du festival Entrevue qui programmera du 18 au 25 novembre 6 films de la DEFA, la société de production d'État de la RDA. Encore une occasion de redécouvrir de l'autre côté du mur le cinéma est-allemand. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jean-Michel Bernaud. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan Large sur un cinéaste italien, Mauro Bolognini. Et puis, en fin d'émission, on parlera aussi de Shah Rukh Khan, l'acteur le mieux payé du monde. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.